C'est de redire, c'est le club dans la tête au carré.
Avec beaucoup de monde autour du micro aujourd'hui, comme
je
vous pouvez
vois
le
ça.
Constater.
C'est à peine si j'ai pu m'asseoir.
Voilà, par contre, on attend votre fauteuil avec impatience. Merci beaucoup, Laetitia, à tout à l'heure. Et un menu complet, effectivement, pour notre club cet après-midi. Au programme, une star de la science sur YouTube, de la science connectée, de la cryptozoologie, un guide antitoxique pour la grossesse et la réouverture du gouffre de Padirac au public. Je vous présente mes invités dans un instant. À la une de la science aujourd'hui, la grande confusion autour du dépistage de la prostate. Catherine de Coppet, bonjour.
Bonjour, l'Institut du cancer et l'assurance maladie tirent la sonnette d'alarme sur les risques d'un surdiagnostic de cette maladie qui représente 28% des cancers chez l'homme, une alerte qui n'est pas partagée par tous, comme on le verra avec nos invités.
Voilà pour le sommaire de ce club réalisé par Stéphanie Texier et préparé aujourd'hui par Emmanuel Fournier avec Estelle Honora.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Mes invités, la journaliste Isabelle Margot, le physicien David Louapre, le médecin nutritionniste Laurent Chevalier et le jeune biologiste Louis Chevillard. Bonjour à tous et à toutes.
Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Bienvenue.
Mathieu.
Isabelle Margot, les 1er et 2 avril prochains, Nancy, la santé sera numérique avec le premier salon e-santé, c'est ça?
Voilà, après le monde du papier, le monde de la photo qui change, eh bien le numérique arrive dans la santé, ça change tout et on va montrer comment dans ce salon.
Laurent Chevalier, protéger son futur bébé des produits toxiques, c'est possible dans un environnement aussi justement délétère?
Oui, il faut développer une hygiène chimique, comment développer une hygiène contre les microbes, comment limiter l'exposition à un certain nombre de substances, c'est possible.
Vous publiez le guide antitoxique de la grossesse. David Louapre, c'est quoi un bon vulgarisateur scientifique?
Un bon vulgarisateur scientifique, c'est quelqu'un qui arrive à rester accessible en sacrifiant le moins possible à la rigueur, mais il faut sacrifier toujours un petit peu.
Et vous avez choisi entre autres Internet pour parler de science, et puis on va le voir aussi le livre avec « Mais qui a attrapé le bison » de Higgs. Louis Chevillard, bonjour Louis.
Bonjour Mathieu.
Qu'est-ce que la cryptozoologie?
La cryptozoologie, c'est littéralement la science des animaux cachés, donc autrement dit les formes animales, qui sont encore inconnues des scientifiques, et dont on peut soupçonner l'existence grâce à des preuves comme des empreintes, des fragments anatomiques ou des témoignages.
Et vous allez présenter une conférence sur le sujet, ce sera jeudi 31 mars prochain à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Et puis nous irons donc à Padirac, dans la vallée de la Dordogne, au cœur du célèbre gouffre qui est l'une des plus grandes curiosités géologiques de France. Voilà donc pour ce premier tour de table et bien sûr vous nous rejoignez avec vos messages et vos questions sur franceinter.fr. Faut-il encourager le dépistage systématique du cancer de la prostate? C'est la question à la une de la science, dont Catherine de Coppet.
Oui, il s'appelle dosage PSA pour dosage antiprostatique spécifique et il s'effectue par une simple prise de sang. C'est cette pratique de dépistage et les examens qu'elle entraîne qui sont aujourd'hui au cœur des débats, alors que pas moins de 3 millions de Français y ont eu recours en 2015.
Oui, bonjour Thierry Lebray.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes secrétaire national de l'Association française d'urologie, puis à vos côtés notre médecin généraliste Dominique Dupagne. Rebonjour Dominique,
bonjour,
vous
bonjour.
Étiez avec nous hier. L'actualité donc du sujet, c'est la publication par l'Institut national du cancer et l'assurance maladie de deux guides, l'un pour les médecins, l'autre pour le grand public, pour mettre en garde sur le recours systématique au dosage PSA. Quel est le problème Dominique?
Il y a eu un débat pendant longtemps pour savoir s'il fallait ou pas dépister le cancer de la prostate, parce qu'il y a des inconvénients très forts pour ce dépistage et des bénéfices qui restent hypothétiques. Et là, finalement, on n'est plus dans le débat de savoir s'il faut ou s'il faut pas, puisqu'il y a quand même l'Institut National du Cancer, après la Haute Autorité de Santé, à l'unisson de toutes les associations de médecins internationaux autres que les urologues qui disent que ce dépistage est extrêmement critiquable. Non, ce qui pose question, c'est pourquoi est-ce qu'on continue à le faire? Pourquoi, en effet, est-ce qu'on continue à pratiquer massivement un dépistage qui, finalement, a plus peut-être d'inconvénients que d'intérêt?
Eh bien, on va avoir la réponse tout de suite, j'imagine.
Oui, Thierry Lebray, tous les médecins et urologues donc, ne sont pas forcément d'accord avec cette mise en garde, puisque vous dites que le dosage PSA a des bénéfices aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
Eh bien, ce dosage du PSA, effectivement, fait débat, mais aujourd'hui, la grande question est de savoir est-ce que l'on peut diminuer la mortalité du cancer de prostate? Il y a 10 000 morts chaque année. Et est-ce que l'on peut éviter que les patients aient une fin de vie avec des métastases et soit diagnostiqué au stade où il y a les douleurs, l'infiltration tumorale et tout ce que cela concerne? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question qui s'oppose, c'est celle que nous posent tous les patients. Est-ce que l'on pouvait prédire est-ce que l'on pouvait me traiter avant pour éviter tout ça.
Le PSA est fiable aujourd'hui ou pas?
Alors le PSA est un dosage qui est parfaitement fiable à condition de le connaître, de savoir le manier. C'est comme tout instrument, si on ne sait pas le manier, ça devient dangereux. Le PSA est un excellent marqueur, il n'est pas cher, il marque bien les événements qui se passent sur la prostate. Et aujourd'hui, il faut savoir simplement l'interpréter pour pouvoir aller plus loin.
Ouais, sur la fiabilité du PSA, Dominique
Dupin. Ça dépend ce qu'on appelle fiabilité. Il est clair que de nombreuses personnes qui ont des PSA élevés peuvent ne pas avoir de cancer et des gens qui ont des PSA normales peuvent avoir un cancer. Donc la fiabilité est un terme qu'il faudrait interpréter avec des données scientifiques qui seraient peut-être un peu compliquées à développer maintenant.
Alors ce que vous dites, Thierry Lebray, c'est que le dosage PSA, de toute façon, ne doit pas être pratiqué seul. C'est-à-dire qu'il y a toute une... un groupe de techniques finalement, ou en tout cas d'autres diagnostics qui doivent compléter le diagnostic du dosage PSA.
Alors aujourd'hui, bien sûr, on a une multitude de possibilités de rentrer dans ce dépistage. Bien sûr, le PSA reste un élément central. L'examen clinique, c'est-à-dire le toucher rectal, reste un élément fondamental. Et tous les hommes qui ont plus de 50, 60 ans et qui commencent à voir des petits signes prostatiques vont avoir recours à cet examen. Mais il y a maintenant des performances nettement meilleures avec notamment des marqueurs biologiques qui sont plus compétents. Et puis la révolution, ça a été l'IRM. Aujourd'hui, on arrive à voir le cancer de prostate, ce qu'on ne pouvait pas faire il y a 5 ans. Aujourd'hui, avec l'IRM, non seulement on arrive à voir une zone qui est suspecte et qui peut être un cancer de prostate, mais on peut même prédire que ce cancer va être plus ou moins agressif avec une très bonne spécificité.
Alors, en tant qu'urologue, comment vous prenez, au fond, cette mise en garde de l'Institut National du Cancer et de l'Assurance Maladie?
Eh bien, je la prends avec beaucoup de sérénité et surtout, je pense qu'elle apporte beaucoup parce qu'elle ouvre encore une fois le débat de la responsabilisation de la population française. Chacun est libre de faire ou de ne pas faire ce dépistage. On parle plutôt maintenant de diagnostic précoce pour sortir de cette ornière qui est épidémiologique. On va proposer aux gens qui veulent savoir s'ils ont ou pas un cancer de prostate de rentrer dans cette démarche diagnostique. Cette démarche diagnostique, elle commence par le PSA, mais bien sûr, elle peut être ensuite implémentée avec l'index FI, la calicréine, l'IRM. Et le diagnostic, encore une fois, pour savoir si c'est un bon ou un mauvais, encore que bon dans le cancer, c'est pas terrible, mais un cancer agressif ou pas, reste la biopsie qui permet d'analyser le tissu.
Dominique Dupin, derrière ce débat, il y a toute la question en fait, de l'évolution de la maladie, puisque le cancer de la prostate est une maladie à évolution lente, ce qui fait que finalement, ce diagnostic précoce peut être remis...
On va dire à évolution variable, mais dans de la majorité des cas, heureusement, les petits foyers de cancer prostatique qui sont dans la prostate des hommes, hein, ça touche presque un homme sur deux à 60 ans, n'évolueront jamais vers une vraie maladie. Et c'est tout le problème, parce que plus on regarde, plus on trouve, et on trouve des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû trouver.
Et plus en plus tôt, donc.
Et absolument. Et donc, le problème qu'on a, c'est qu'en matière de prostate, plutôt que d'avoir la stratégie habituelle qui consiste à élaborer une pratique, une stratégie, puis la valider pour voir si ça marche, on teste en sauvage dans la population. Donc on a testé les PSA pendant 20 ans, on sait maintenant que c'est quelque chose de décevant qui expose à des inconvénients importants, et donc maintenant on va plus vers des techniques plus modernes, IRM, mais on sait toujours pas si ça sauve des vies tout ça. On pense que, de la même façon qu'on pouvait penser que coucher les enfants sur le ventre, ça pouvait sauver des vies et ça a tué 10 000 nourrissons. Donc moi je suis très attaché au principe qui consiste, lorsqu'on a une stratégie qui va toucher des millions de personnes, de commencer par l'évaluer sur un groupe, de vérifier qu'elle fonctionne, et ensuite et seulement ensuite de la généraliser.
Vous malheureusement, pensez à l'IRM notamment, c'est
par
ça
exemple, l'IRM, oui, on voit des trucs, mais qu'est-ce qu'on en fait? Je veux dire, est-ce qu'on est absolument certain que les lésions qui vont être enlevées à l'IRM vont apporter un bénéfice et qu'on ne va pas mutiler des gens qui n'auraient jamais entendu parler de leurs lésions de toute leur vie?
Avec tout l'aspect psychologique aussi que
C'est plus que psychologique, la puissance et l'incontinence, on n'est plus dans la psychologie,
oui,
on est dans le handicap.
Il y a aussi l'aspect psychologique du dépistage précoce. Alors Thierry Lebray, justement, vous laissiez entendre tout à l'heure que plus on dépiste tôt et plus on peut éviter des morts. C'est un peu ce que vous disiez quand même.
Alors c'est très simple, il faut comprendre qu'il y a une barrière. Tant que la maladie est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun symptôme, on n'a pas de difficulté à uriner, on n'a pas de métastase, on n'a pas de douleur, on peut traiter et on peut guérir. Dès que la maladie est à l'extérieur de la prostate, il est trop tard pour guérir. On peut ralentir, on a des nouveaux traitements, mais on ne peut pas guérir le patient. C'est quelque chose de très important. Alors bien sûr, il y a la compétition avec la vie naturelle et la mort naturelle. Aujourd'hui, le PSA, pour contredire mon interlocuteur, dans les pays où on utilise le PSA, le taux de patients qui sont diagnostiqués avec des métastases est aux alentours de 10%. Dans les pays où on n'utilise pas le PSA, il est aux alentours de 50 à 60%. Donc si on veut revenir effectivement à l'ère pré-PSA, annonçons à la population que le diagnostic sera fait, mais au stade où on ne pourra plus les traiter et au stade où il y a des métastases. Chaque jour à l'hôpital Foch, quand je vois mes malades qui sont plus évolués que la maladie locale, ils me disent « mais pourquoi n'avons-nous pas fait avant ce diagnostic ?» Et la seule manière de le faire, c'est de faire un diagnostic précoce. Encore une fois, le PSA reste une arme stratégique, mais qu'il faut savoir utiliser.
Bon, mais vous êtes donc contre, si je comprends bien, les messages de l'Institut national du cancer de l'assurance maladie, parce que vous vous dites qu'il faut le faire de plus en plus tôt.
Je ne suis pas contre, et notre association n'y est pas. L'Association française d'urologie dit « ce document-là ne permet pas aux médecins généralistes de voir clair ». Et aujourd'hui, vous avez très bien introduit le sujet, il y a une confusion. Qu'est-ce qu'on dit aux patients? Et je pense que le rôle fondamental, et je compte beaucoup sur nos collègues et amis généralistes pour véhiculer ce message-là, c'est l'information du patient.
Eh bien justement, Dominique Dupagne, vous êtes médecin généraliste, le mot de la fin pour vous.
Oui, donc je ne veux pas du tout rentrer dans un débat scientifique, on n'a pas le temps. Moi je m'appuie encore une fois sur l'opinion de l'Institut National du Cancer et de l'HAS, qui ne sont pas les repères de complotistes. Mais M. Lebray a dit quelque chose de très important, c'est que les PSA, si on veut les faire, c'est quand on n'a pas de symptômes, parce que c'est là qu'on peut avoir l'espoir en effet. Mais le PSA, comme je le vois parfois chez des gens qui ont des symptômes urinaires, ça n'a aucun intérêt, comme il a dit, puisqu'on ne peut plus enlever la maladie définitivement, on peut juste la ralentir.
Thierry Lebray ?
Non, le PSA, ce n'est pas que le cancer. Donc, il est très utile d'avoir un PSA quand on a des symptômes. C'est fondamental parce qu'effectivement, ça fait découvrir autre chose. Et c'est fondamental de savoir que si on veut vraiment bien l'utiliser, il faut savoir. Et dernier point pour finir, il n'y a pas que les urologues qui ont cette attitude. L'Académie de médecine, l'Académie de chirurgie, la Société de radiologie, maintenant les imageurs et bien sûr les médecins nucléaires qui rentrent de plus en plus.
Bon,
et
chacun a ses soutiens.
Et
alors,
surtout les associations de patients.
Mais tout le monde n'est pas d'accord.
Interrogez l'ANAMACAP, par exemple, ils vous diront nous sommes totalement pour. Et les patients, c'est eux qui ont, à mon avis, doivent avoir le dernier mot.
Belle illustration de cette confusion, en tout cas, encore aujourd'hui au micro. Merci beaucoup à tous les deux, Thierry Lebray et Dominique Dupagne. Catherine, bon week-end.
Merci, vous aussi.
Et à lundi pour une nouvelle Une de la Science. Allez, ce week-end, vous le savez, nous fêterons les 40 ans de l'heure d'été. Dans la nuit de samedi et dimanche, à 2h du matin, il sera 3h. Et l'horloge de l'Observatoire de Paris va synchroniser automatiquement toutes nos montres. Ce n'est qu'après le choc pétrolier de 73 que la France a adopté cette mesure pour faire des économies d'énergie en matière d'éclairage public. Même si Benjamin Franklin, au XVIIIe siècle, évoquait pour la première fois dans le Journal de Paris la possibilité de décaler les horaires pour économiser l'énergie. Vous pouvez lire sur le sujet un article passionnant en allant sur le site The Conversation, qui est en lien en français, sur la tête au carré. Un poisson issu de deux lignées du lac Victoria en Afrique capable d'auto-fécondation. L'hybride qui se trouvait seul dans un aquarium a donné naissance à 46 poissons selon une étude suédoise. 17 d'entre eux ont vécu jusqu'à l'âge adulte. L'hermaphrodisme est bien connu chez les plantes mais plus rare dans le monde animal, notamment chez les vertébrés. Selon les auteurs de l'étude, nous sous-estimons aujourd'hui le nombre d'hermaphrodites, c'est-à-dire qu'il est difficile de distinguer quand les individus vivent ensemble en groupe. Et puis la Lune aurait changé d'orientation il y a plusieurs milliards d'années. Les chercheurs qui ont publié leur rapport dans Nature ont scruté l'axe de rotation de notre satellite en analysant les dépôts d'hydrogène des calottes glaciaires. Ils estiment que ce basculement aurait atteint une inclinaison de 6 degrés. L'explication qu'ils donnent au phénomène est d'ordre géologique. La région lunaire concernée aurait eu une forte activité, notamment volcanique, par le passé. Allez, le club dans un instant avec, pour commencer, et toujours dans le cadre de cette journée de programmation musicale 100% belge en hommage aux victimes des attentats de Bruxelles, Overphonic avec Made About You.
Trouble is my middle name, but in the end I'm not too bad. Concerned.
Overphonic à l'instant sur France Inter.
Le club carré sur France Inter.
Voilà, on va parler santé connectée, cryptozoologie, gouffre de Padirac, de la science étonnante et puis des conseils antitoxiques pour la grossesse. Donc au menu de notre club, vos messages sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Laurent Chevalier, on commence justement avec vous. Vous êtes médecin nutritionniste et vous publiez avec l'ingénieur agronome Claude Aubert le guide antitoxique de la grossesse. C'est aux éditions Marabout. Alors on va essayer de pas affoler tout le monde hein, quand même pendant ce quart d'heure. Mais le risque environnemental et nutritionnel, vous l'avez dit tout à l'heure, est devenu très très important pour les mamans qui attendent un bébé.
Absolument. S'il y a une période dans la vie où il faut manger bio, c'est bien pendant la grossesse. Mmh. Vous limitez le risque d'être exposé à des résidus de pesticides. Quand on voit les statistiques aujourd'hui, on est complètement atterré. On a une augmentation très significative du nombre de cancers chez les enfants. Heureusement, c'est rare. On a une augmentation des malformations aussi de façon très significative. Ça a été étudié dans la région Rhône-Alpes. On est passé d'une incidence de 150 pour 10 000 à 250 pour 10 000 en quelques décennies. Mmh. Donc, il faut être extrêmement prudent. Ouais. Et nous sommes un peu, nous médecins, stupéfaits du fait que les pouvoirs publics ne donnent pas plus, si vous voulez, de conseils et de recommandations. Ouais. Les pouvoirs publics cherchent pas à mal faire, mais on a l'impression qu'ils sont un peu dépassés par les événements. Donc, il faut absolument arriver à se prendre en main. Juste un point. Par exemple, on a eu une grande étude de l'INSERM qui montrait que les femmes qui étaient coiffeuses et qui femmes de ménage et qui attendaient des enfants avaient plus de risques d'avoir des enfants mal formés que les autres.
Pourquoi ? Parce qu'elles utilisent des produits plus toxiques.
L'interprétation, c'est qu'effectivement, ils utilisent des produits plus toxiques. Mmh. Il y a des recommandations de base à donner. Par exemple, le choix du matelas de votre futur nouveau-né et même le choix du matelas pour la femme enceinte. Quand vous regardez les matelas aujourd'hui, on vous dit, ils sont anti-acariens, anti-mites, etc. Très souvent, c'est des biocides, des pesticides qui sont mis dedans. Ensuite, il est anti-feu, donc c'est des polybromés. Un certain nombre contiennent aussi des nanoparticules d'argent contre les souillures. Donc vous avez une espèce de cocktail que l'enfant va respirer ou que la femme va respirer.
Bah alors, qu'est-ce qu'il faut donner?
Il y a des solutions.
Mais c'est ça,
la solution.
Bah, à chaque fois, cet exemple particulier, qu'est-ce qu'il faudrait donner?
C'est très simple. Vous allez choisir un matelas en latex, donc 100% latex. Alors, il en existe en synthétique, sont pas mal, mais plutôt les bio. Donc à chaque fois, on a des solutions et c'est ce qu'on a voulu démontrer dans cet ouvrage-là, ouais. C'est donner des solutions à la fois dans le choix des lessives, dans le choix des aliments, dans le choix de la literie, dans le choix des produits ménagers et c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental. En plus, il faut bien comprendre une chose, c'est que les habitations sont mieux isolées. Donc étant mieux isolées, ben finalement, on a beaucoup plus d'éléments toxiques. En sachant une chose malgré tout, c'est que la priorité des priorités reste néanmoins, parce qu'il faut hiérarchiser le risque,
oui, le tabac
et l'alcool.
Voilà,
absolument.
Ça, c'est vraiment le message que vous laissez.
On a quand même aujourd'hui 150 000 enfants qui naissent par an, qui sont intoxiqués in utero par le tabac. Avec des risques majeurs par derrière d'avoir des cancers, d'avoir aussi une dépendance au tabac, de retard de croissance in utero, etc. Donc le tabagisme est un véritable fléau. Donc il faut arriver à lutter vraiment contre ça. Et puis, il y a évidemment tout le reste, il faut faire attention à tout le reste. Il y a, vous savez, aux États-Unis, on avait fait une étude, donc en Europe c'est à peu près la même chose, où la femme enceinte, finalement, est en contact avec plus de 43 toxiques.
Oui.
Je veux dire, et ses effets, pour partie, expliquent l'origine des maladies par ensuite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une documentation quand même qui est scientifique très solide pour nous montrer que l'origine fœtale des maladies, de l'obésité, du surpoids, des cancers, sont pour partie, des allergies évidemment, sont pour partie liées à ce qui se passe pendant la période fœtale. Donc c'est tout à fait essentiel.
Isabelle Margot.
C'est la femme qui réagit et qui dit « mais vous allez faire porter un poids encore plus lourd sur les femmes, vous vous rendez compte ?» Alors je comprends, vous faites votre boulot de scientifique, mais...
La culpabilité de la mère.
Quand vous dites le surpoids. Alors, ouais. Mon enfant est un peu en surpoids, c'est de ma faute.
Non, ça se passe pas du tout comme ça. En fait, à chaque fois, on donne des solutions. Il faut avoir conscience du problème et ensuite on donne des solutions.
Et c'est comment on doit agir. C'est le couple qui doit agir, hein, parce que
c'est le couple qui doit agir. Effectivement, quand on
pas seulement la mère.
Voilà, quand on prépare la chambre de bébé, on va la préparer. On donne des exemples très simples. Il faut la préparer 4 mois à l'avance et surtout c'est pas maman qui va peindre, mais c'est papa qui va peindre. Parce que la peinture, elle émet des composés organiques volatiles. Il faut que tout ça, ça aère. Donc, j'ai bien entendu le couple. Donc, au contraire, il faut avoir conscience d'un certain nombre de problèmes. Et à chaque fois, on donne des solutions.
Non, mais c'est vrai, vous savez, nous... C'est vrai qu'elle a raison, Isabelle Margot. Dans le message, on entend toujours la mère, la mère, la mère. Donc, évidemment, c'est elle qui porte le bébé.
Non, mais c'est bien sûr, c'est tout le monde. Et par exemple, le tabagisme passif du père est absolument catastrophique aussi. Mais ça émet du cadmium, etc., qui favorise les malformations. Enfin, tout un tas de problèmes. Donc, bien entendu, mais à chaque fois, on trouve des solutions. Vous savez, nous, médecins,
La solution,
on est là pour donner
Elle est simple, la solution, quand on lit votre ouvrage, Laurent Chevalier, c'est qu'il faut déménager, changer complètement la maison, changer de meubles, de vêtements, de literie, d'alimentation, vider les placards. Enfin, c'est très simple.
Non. On fait les meilleurs choix. On va faire les meilleurs choix sur la lessive.
Enfin, en gros,
on on va éliminer certaines lessives qui sont plus toxiques que d'autres. Il y a quand même des lessives aujourd'hui que l'on trouve qui sont intéressantes. On va mieux choisir ces produits de bricolage. C'est des réflexes qu'on acquiert. Je peux vous dire que les femmes que l'on suit, elles acquièrent ces réflexes.
Mais sur le temps de la grossesse.
Les cosmétiques et les cosmétiques.
Sur le temps de la grossesse qui est de 9 mois, c'est vrai qu'on se dit, il y a quand même beaucoup de choses à faire avant que le bébé arrive, quoi. Hein.
C'est des réflexes. Par exemple, un réflexe très simple, on n'est pas obligé de se maquiller tous les jours. Oui. On sait que les fonds de teint, 71% des fonds de teint contiennent des perturbateurs endocriniens qui vont passer dans le sang.
Les vernis à ongles aussi.
Les vernis à ongles, exactement. Donc on peut le faire, mais de temps en temps.
C'est sympa.
On prend les produits d'hygiène. Pas se
maquiller pendant 9 mois, ils s'appellent
pas. Non, on peut se maquiller, mais pas tous les jours. On peut se maquiller, mais pas tous les jours. Mais c'est des choses de base. Quand on voit l'augmentation des maladies chez les enfants, parce qu'on dit cancer, c'est maladie des personnes âgées, pas du tout. Là où on a la plus forte progression, on a une très forte progression chez les enfants et adolescents. Ouais. Donc il faut agir en amont. On n'est pas du tout un message anxiogène, on est un message de solution. Par contre, il faut avoir conscience effectivement de la situation qui est un peu préoccupante et des pouvoirs publics.
Mais ça, vous avez absolument raison. Avec des études qui s'accumulent sur la vulnérabilité du fœtus, on est tous d'accord là-dessus.
Voilà, évidemment, extrême vulnérabilité du fœtus. Et malheureusement, les pouvoirs publics sont pas tout à fait, enfin donnent pas tout à fait suffisamment de bons messages en tout cas. Et c'est pour ça qu'il faut absolument arriver à se prendre en main, et c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel.
Mmh. Isabelle Margot, vous êtes convaincue ou pas?
Je suis convaincue, oui, de la nécessité d'informer, ça c'est clair, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que ça a toujours un effet effectivement anxiogène, c'est bien le problème.
On donne des solutions.
Ouais, mais quand même, parce malgré que quand tout, vous avez, culpabilisateur,
quand vous avez, vraiment. Quand vous avez une mère, donc c'est une étude américaine, qui montrait qu'elle avait été en contact, exposée à certains types de pesticides, des organophosphorés qui ont été beaucoup étudiés, le QI des enfants était diminué de 7 points. Non mais, c'est des choses importantes.
On peut le corréler? Comment est-ce qu'on peut vraiment s'en assurer?
On a des études qui sont comme ça.
Surtout quand il y a plusieurs facteurs. Vous avez une femme, par exemple, qui fume un peu, qui couche son bébé sur un matelas qui n'est pas le bon, etc. Comment est-ce que vous pouvez savoir quelle est l'incidence du matelas sur son QI?
Non, mais là, c'était des pesticides.
Excusez-moi, je vous assure.
Non, mais des pesticides. C'est un petit peu raccourci, mais bon, en gros, c'est un peu ça quand même.
Non, mais des pesticides. Non, mais des études sont bien faites. On élimine tous les biais, évidemment. On élimine de nombreux biais. Après ça, on a des orientations. Et après ça, on a des présomptions. Si vous voulez, de liens très forts. Après, et là, moi j'étais là quand le rapport de l'INSERM a été donné en juillet 2013, j'ai interpellé mes collègues, et certains étaient des amis de l'INSERM, en leur expliquant une chose, c'est que la science, elle cherche, mais elle doit protéger. Ils doivent s'impliquer plus. Et je leur ai demandé, si dans un an, les recommandations que vous avez données ne sont pas mises en application, qu'est-ce que vous faites? Ils ont été extrêmement gênés. Et un an après, donc en juillet 2014, les recommandations n'ont pas été appliquées. Et malheureusement, ils n'ont pas fait grand-chose.
Bon, les résidus de pesticides, évidemment, donc ça passe, vous le disiez, par une alimentation biologique. D'ailleurs, le livre, vous l'avez fait avec Claude Aubert, qui est ingénieur agronome, spécialiste du bio.
Le pionnier du bio. À l'époque, tout le monde se moquait de lui. Et bien entendu, il avait raison.
Bon, donc voilà, beaucoup de conseils en tous les cas. Et puis, attention aussi à votre santé psychique, parce que le stress, c'est pas bon, Isabelle Margot, non plus pour l'enfant. Non, mais c'est vrai, il y a aussi des études qui sont très claires là-dessus.
C'est dans le livre aussi. Oui, oui. Donc, restez zen.
Voilà, ça s'appelle le guide antitoxique de la grossesse pour faire les bons choix donc dans ces domaines que vous avez cités, alimentation, cosmétique, hygiène, produits ménagers, chambre de bébé. C'est chez Marabout. Laurent Chevalier, vous restez avec nous, parce qu'avec Isabelle Margot, on va parler de santé connectée dans un instant.
C'est quand tu veux, mon petit Picola. Qui peut dire les mots qu'on s'est jurés pour la vie entière? Ça me fait rêver comme on y croyait. Ce matin, j'ai beau chercher tes yeux pour trouver la lumière, tout se noie dans un brouillard épais. Y a quelque chose qui a changé.
ça casse. On a beau vouloir faire l'amour, c'est la guerre des plus amers qui nous enseigne. Ça casse comme un vase en cristal contre le métal. Les yeux fatins, éclat d'étoile. Sans défaire ou se le partager. Trop tard ou trop tôt, peut-on jamais revenir en arrière? Quand on ne vit plus que des regrets, il y a quelque chose qui a changé. Ça casse. On a beau vouloir faire l'amour, c'est la guerre des plus amers qui nous enseigne. Ça casse comme un vase en cristal contre le métal. Il suffit d'un éclat d'étoile.
Voilà la belle voix de Morane dans notre journée 100% belge. Et ce soir d'ailleurs, vous avez rendez-vous cet après-midi à 16h avec Charline Vandenecker, avec l'équipe de Si tu écoutes, j'annule tout, pour 2 heures d'émission spéciale en direct et en public de Bruxelles, du centre culturel de Flaget. Donc à Bruxelles, vous pourrez donc assister à l'émission tout à l'heure. Suite de notre club des Têtes au Carré, Isabelle Mergaud, vous êtes journaliste et fondatrice du premier salon de la santé connectée. Vous venez de France Bleu Sud-Lorraine, c'est là que vous travaillez. Et donc à Nancy aura lieu les 1er et 2 avril prochain au centre Prouvé. Cité Santé, donc c'est le premier rendez-vous de la santé connectée.
Alors premier, vous voulez dire en Lorraine, Mathieu, ou premier tout court? Alors je pense le premier qui va la montrer au grand public, c'est un peu ça la particularité. Pour vous dire en fait, pour vous dire, le numérique en santé, je ne crois pas que ça parle véritablement au grand public. Et pourtant, on commence à l'utiliser. Vous commencez, je suis sûre que vous avez peut-être testé la qualité de votre sommeil ce matin. Dites-nous tout, Mathieu.
Ben non, j'ai pas la montre exprès pour, mais par exemple Stéphanie Texier, elle l'a fait apparemment.
Voilà, une application qui va vous dire combien vous avez consommé de calories, par exemple.
Voilà, combien de pas on a fait pour marcher,
combien on a fait de pas. Bon, alors, bon. Voilà, ça, pour l'instant, c'est la première entrée qu'on a dans le numérique en santé, dans les objets connectés. Voilà, et après, les malades, hein, demain, les malades aussi sont déjà en train d'utiliser ces objets connectés pour mesurer, par exemple, leur taux de glycémie. Voilà. Alors, les professionnels savent exactement ce que c'est, le grand public pas encore. Et l'idée, c'est de le leur montrer via ça, alors via ces objets, via ces applications qui sont en train de se développer, mais aussi via plein d'autres choses. Par exemple, en campagne demain, peut-être qu'on vous sauvera la vie grâce à la télémédecine.
Oui. Alors ça, c'est déjà en place dans pas mal d'endroits.
Ça commence, ça se développe. Ouais. Est-ce que tout un chacun le passer? Grande question. Il faut le montrer, il faut que les gens adhèrent aussi à ça. Il faut les informer, comme vous le faisiez tout à l'heure, monsieur. Voilà. Et puis également, on va vieillir. On va occuper des appartements qui vont être connectés, des appartements intelligents, avec des capteurs qui vont peut-être renseigner mes proches, si par exemple je chute. Et puis là où encore ça va changer encore plus, c'est dans la formation des enseignants. Et c'est ça qui sera peut-être le plus spectaculaire dans ce salon, qui va montrer tout ça, hein, donc qui sera assez ludique. Eh bien, c'est la formation des enseignants via des robots. Des robots, parce qu'aujourd'hui, un professionnel de santé, un médecin, il va plus se former directement sur un patient ou plutôt peut-être une personne décédée, ça peut arriver aussi. Il va se former sur des mannequins. Il va identifier, par exemple, des signes d'infarctus. Et puis, il va pouvoir tester des robots dans la chirurgie. Il va pouvoir s'exercer avec des robots de chirurgie. Et voilà ce que c'est aussi le numérique en santé.
Laurent Chevalier, vous êtes un médecin connecté, vous, ou pas?
Alors, oui, bien sûr, on fait les formations comme vous avez dit, et puis on a des réflexions aussi, par exemple, sur des objets connectés, comme les fourchettes connectées, c'est-à-dire les gens qui mangent trop vite.
Mm-hmm. Oh là là, mon Dieu, mais quelle horreur.
Non.
Ça bipe dès qu'on va un
non,
peu
non,
trop
vite, non.
Si on mastique
elle vibre.
Pas assez.
Non, pas du tout,
elle vibre. Dans la bouche.
Non, dans la fourchette. La fourchette peut se mettre à vibrer si jamais, en fait, on mange trop vite, ou des choses comme ça. Donc c'est amusant, c'est anecdotique.
Ah, c'est très amusant.
Mais
oui,
c'est évident. Non, mais c'est évident que c'est des perspectives d'avenir extrêmement intéressantes, à la fois pour la formation des patients, à la fois effectivement pour des formations très spécifiques. Vous savez que maintenant on utilise aussi, quand il y a des doutes et quand on manque de cardiologue, on envoie son électrocardiogramme au cardiologue qui l'interprète. En retour, c'est un médecin qui va l'interpréter aussi par rapport aux patients, etc. Ouais. Donc il y a une perspective d'avenir. Ouais. Évidemment, bon.
En tout cas, ce que ça montre, Isabelle Margot, c'est la façon dont ça a complètement modifié les relations précisément entre le médecin et le patient, hein, parce que le rapport est plus le même aujourd'hui.
Et puis nous-mêmes, par rapport à notre santé, on est beaucoup plus engagés, on va sur Internet, on se renseigne, on arrive chez le médecin, on n'est plus tout à fait béat devant lui. Donc, et les médecins, par exemple, qui vont proposer ces robots de chirurgie, par exemple, pour qu'on pratique nous-mêmes la chirurgie, qu'on soit le chirurgien, ils ont envie de casser aussi cette barrière entre soignant et soigné. Les gens, ils doivent être engagés aujourd'hui dans leur processus à la fois de bonne santé, c'est pas que de mauvaise santé dont on va parler dans ce salon.
Alzheimer aussi, vous allez en parler, je crois qu'il y a des choses qui existent maintenant, qui sont testées.
Alors des tablettes par exemple qui sont chez les patients Alzheimer qui renseignent, qui informent le patient Alzheimer ou la personne Alzheimer que par exemple elle a un rendez-vous chez son cardiologue et qui la met en relation avec son petit enfant. Voilà, ou bien, par exemple, en maison de retraite, parce qu'on s'aperçoit que le jeu, aussi, via les tablettes, est très bénéfique aussi pour les personnes malades.
Voilà, ça s'appelle Cité Santé, ce sera le 1er 2 avril prochain. Centre prouvé, donc, à Nancy, autant pour les professionnels que pour le public. Il y a aussi des conférences, il y a un site internet, salon-citesanté.com pour ceux qui souhaitent avoir tout le programme. Allez, direction le gouffre de Padirac dans la vallée de la Dordogne. Nous sommes en ligne avec Alain Mangin. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Vous êtes hydrogéologue, directeur de recherche chez Mérite au CNRS. Et donc aujourd'hui, c'est l'ouverture de la saison annuelle du gouffre de Padirac.
Du gouffre de Padirac, oui.
Et c'était l'occasion d'en parler parce que figurez-vous, moi je ne suis jamais allé à Padirac et j'aimerais beaucoup que vous nous en disiez un petit peu plus sur cette curiosité géologique parce qu'on se déplace de très loin pour venir dans les entrailles de votre gouffre. Alors qu'est-ce que c'est exactement que cette cavité naturelle?
Alors, bon, c'est une très très grande cavité qui est très accessible. Le gouffre est très profond, c'est très spectaculaire. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce que l'on peut voir, c'est des archives un petit peu de l'histoire de la région du Quercy, mais c'est aussi montrer un monde un petit peu particulier, le monde souterrain, bon, qui est lié au fait que sur les paysages calcaires, l'eau qui tombe sur la surface, eh bien, elle s'infiltre, et elle va dissoudre la roche et elle va créer de très très grands vides. Et ce qui caractérise Padirac, justement, c'est l'importance de ces vides. C'est ce qui va surprendre le visiteur lorsqu'il va arriver là.
103 mètres de profondeur, hein, c'est ça, hein.
C'est ça, oui.
Ouais, 35 mètres de diamètre. Et comment a été découvert ce gouffre, alors?
Ce gouffre a été découvert, bien sûr, l'entrée était connue, mais ça a été découvert et surtout exploré par Alfred-Édouard Martel dans les années 1889 par là. Et d'ailleurs, Martel, qui est le père de la spéléologie, disait que pour lui, Paddy Rack était certainement sa plus belle découverte.
Ah bah oui, j'imagine. Ouais. Et alors, est-ce que tout de suite, il y a eu un tourisme qui s'est développé autour du gouffre ?
Non, le tourisme s'est développé beaucoup plus tard, lorsque c'est surtout, je pense, que c'est avec Guy Delavore, c'était un tout petit peu plus tard, et donc effectivement, non, je crois que c'était avec Martel, je crois aussi, mm-hmm. Oui, le tourisme a commencé, la visite du gouffre a commencé.
Oui. Avec un escalier métallique, c'est ça qui a été installé, alors,
voilà,
l'éclairage électrique.
Voilà, tout à fait.
Et puis un ascenseur.
Et hein. Puis maintenant un ascenseur.
Un petit peu plus tard.
La visite est très 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 facile.
Alain Mongin, qu'est-ce que ça dit justement de la géologie de cette région, alors ce gouffre particulier?
Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que d'une part, du fait que on a un très grand vide, on a 103 mètres, eh bien, ça nous permet d'avoir une coupe dans les calcaires qui se sont déposés il y a 160 millions d'années dans cette région-là, et donc le gouffre nous permet d'avoir une coupe sur cette forme, sur ces calcaires, mais également sur la formation de ces vides, ce que l'on appelle dans notre jargon un karst, c'est-à-dire que l'eau qui s'infiltre va s'organiser, va créer des rivières souterraines, et d'ailleurs une partie de cette rivière souterraine va pouvoir être visitée par les gens qui viennent.
Oui, c'est un réseau énorme, hein, c'est ça qu'il faut
alors,
dire.
Oui, c'est un réseau qui est estimé à l'heure actuelle à une vingtaine de kilomètres. Hein, on est au niveau du gouffre de Paddy Rack vers l'amont, la source, toutes les eaux qui percolent vont ensuite rejoindre la Dordogne, du côté de Mont-Valent après.
Et donc c'est la réouverture ce week-end, hein ?
Alors c'est la réouverture annuelle. Ce week-end, oui, tout à fait.
Pour aller donc découvrir cette curiosité géologique à Paddy Rack.
C'est ça, ça en vaut vraiment la peine.
C'est ça, avec ces animations spéciales pour le week-end de Pâques. Là aussi, on peut aller sur votre site internet, évidemment, pour avoir tous les renseignements.
Bien entendu.
Merci Alain Mongin, hydrogéologue, hein, donc pour ces explications sur le gouffre de Paddy Rack. Merci et bon week-end à vous.
Merci beaucoup.
À bientôt. Louis Chevillard, comment ça va, Louis?
Ça va très bien. Beaucoup d'émotions.
Je vais te tutoyer. Mais oui, je vais dire pourquoi. Parce qu'on se connaît bien à la tête au carré. Ouais. T'es étudiant en biologie, en troisième année, c'est ça?
C'est ça, en troisième année.
Et t'es venu faire un stage dans l'émission. Mm-hmm. Voilà, comme beaucoup de stagiaires qui passent régulièrement. C'était il y a un an et demi à peu près. Et à cette occasion, donc, toute l'équipe avait découvert ta passion pour la cryptozoologie.
Effectivement. Il y avait même une émission dédiée.
C'est ça. On avait même organisé une émission grâce à toi. Mm-hmm. Passion qui visiblement persiste, hein, puisque tu vas présenter jeudi prochain à l'université Pierre et Marie Curie une conférence sur le sujet, ce qui est quand même pas mal. Il a 21 ans, donc bravo.
Merci.
Ce sera 18h30. Alors, qu'est-ce que la cryptozoologie exactement? Tu nous l'as expliqué un tout petit peu tout à l'heure.
Tout à fait, comme je l'avais dit très succinctement, c'est la science, enfin c'est pas vraiment une science finalement, puisque quand elle a été fondée, c'était il y a quand même un petit bout de temps, vers 1950, il y a un homme qui s'appelle Bernard Heuvelmans, qui est considéré aujourd'hui comme le père de la cryptozoologie. C'est assez drôle, il était surnommé le Sherlock Holmes des animaux. Il menait des enquêtes comme ça pour savoir si certaines espèces avaient des chances d'exister, parce qu'on les connaissait, parce que il y avait des populations locales qui en parlaient, mais qui étaient totalement inconnues des scientifiques.
Ouais.
Et du coup, il faisait beaucoup d'enquêtes et il s'est dit à un moment, je vais mettre un terme sur cette méthodologie. Et il a inventé en même temps qu'un autre, parallèlement, le terme de cryptozoologie pour désigner cette démarche qui se voulait scientifique à la base. Pour déterminer ces enquêtes qui ont trait à des espèces nouvelles.
C'est ça. Donc ce sont tous les animaux qui n'ont pas encore été référencés par la science,
effectivement, mais alors en fait, ce qui se différencie du zoologue, parce qu'au final, le zoologue dit classique, il va aussi découvrir de nouvelles espèces. Sauf que pour lui, ça se fait de manière tout à fait fortuite. C'est du hasard en général. Là où ça change un peu avec la cryptozoologie, c'est que c'est une démarche anticipative. On va réunir des preuves au préalable, et ensuite le cryptozoologue, s'il a assez de preuves pour pouvoir dire oui, telle ou telle espèce a un potentiel d'existence, il va aller sur le terrain pour essayer de vérifier si c'est le cas.
C'est ça. Et il y a des histoires célèbres d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il va sur les traces de ces animaux un peu mystérieux dont on entend parler dans les forêts africaines, par exemple.
Tout à fait.
Je me souviens, on avait donné
fait
un exemple
sur le Mokelemembe.
C'est
ça. Mbé, enfin, ça dépend, mais effectivement, il y a des.
Qu'est-ce que c'est que cet animal, Louis?
Cet animal, bah, alors justement, le but du jeu, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, mais il y a des chercheurs qui vont chercher dans la forêt du Cameroun et du Congo, parce qu'effectivement, hein, les pygmées là-bas, qui vivent là-bas, ont émis des témoignages sur un animal de très grande taille, et tout le témoignage se corrobore en fait. Et on sait que sur ce territoire, qui a été, disons, délimité, il n'y a pas d'hippopotame. Donc on peut supposer que cet animal et les hippopotames occupaient la même niche écologique. Donc vraiment, et puis récemment, en janvier 2016, Il est revenu, il a ramené des traces assez sympathiques. J'espère que des scientifiques pourront vraiment se pencher sur, sur ces photographies.
Laurent Chevalier, intéressé par la cryptozoologie, visiblement.
Qu'est-ce qu'il pense du monstre du Loch Ness?
Ah ben oui, c'est vrai. Est-ce que c'est dans les exemples?
Oui, alors absolument. Parce que la cryptozoologie, assez vedette.
Oui,
le monstre du Loch Ness, j'allais dire en fait partie, mais c'est plus en faisait partie. Parce que le dossier a été plus ou moins classé, en fait.
C'est-à-dire
que la légende suit son cours. C'est-à-dire qu'en fait, oui, effectivement, si on se penche sur les études scientifiques qui ont été faites à propos du Loch, le monstre n'a pas vraiment de... Enfin, il n'existe pas, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'on a montré que dans la chaîne alimentaire, il n'y avait pas assez de ressources dans le Loch pour alimenter une population de grande taille. Ouais. Après, c'est vrai que le Loch est relié à la mer par le fleuve Ness. On ne sait jamais, il y a peut-être des prédateurs qui ont suivi les flux de poissons, effectivement, dans le Loch.
Alors, Isabelle Margot et Laurent Chevalier, ensuite.
Mais dans l'animal, par rapport à l'animal dont vous parliez, il y en aurait combien d'individus, par exemple?
Le moko, le mokele, avec un nom improbable.
Effectivement. Bah, en fait, le souci, c'est que auprès du grand public, quand on parle de cryptides, parce qu'on appelle ça les cryptides, les animaux qui sont étudiés par la cryptozoologie, on pense généralement qu'il n'y en a qu'un seul. On dit le monstre du Loch Ness, on dit le Mokele Mbembe. Mais en réalité, s'il s'agit d'espèces, évidemment, il y en a plusieurs. Donc il faudrait qu'ils soient assez nombreux et qu'ils se situent dans des endroits qui sont relativement peu explorés pour justement pouvoir vraiment exister, si vous voulez. Et le Mokele Mbembe, dans la cuvette congolaise, il y a quand même la place, il y a des endroits qu'on n'a pas vraiment encore explorés. Donc c'est pas si improbable qu'un gros animal puisse encore s'y cacher.
Laurent Chevalier.
Alors, moi, quand j'étais étudiant, je me suis beaucoup intéressé à l'entomologie. Et je voulais savoir si parmi les insectes et les papillons, eh bien, les populations autochtones les décrivaient effectivement.
D'accord.
Est-ce qu'il y a toute une...
Alors, j'ai pas d'exemple à vous fournir, mais je sais qu'effectivement, les insectes sont en général assez écartés du sujet de la cryptozoologie, justement parce qu'ils sont trop petits pour laisser une marque forte dans les esprits.
Si vous voulez, les couleurs des papillons?
Oui, un peu, par exemple, après, c'est vrai que vous pouvez avoir des papillons qui sont connus, effectivement, des populations locales, et on peut les interroger pour, si vous voulez mener en enquête. C'est intéressant, c'est un nouveau champ de recherche, vous voulez, mais malheureusement, il a un peu glissé dans le paranormal aujourd'hui.
C'est ça.
À cause de ses vedettes, Yeti, Loch Ness et tout
ça. Mais justement, vous avez maintenant un lieu de parole qui est l'Université Pierre et Marie Curie pour en parler.
Donc c'est une façon de réintroduire futurs chercheurs
cette discipline dans la science.
Ouvrir leur esprit, voilà.
Et il est passionnant quand il en parle. Il a 21 ans, Louis Chevillat. Retenez bien son nom parce que ça deviendra un grand biologiste. Moi, je suis sûr qu'on l'en sera dans cette émission à nouveau dans quelques années. Et c'est jeudi 18h30.
J'espère que l'amphi sera assez grand. Je ne m'attendais pas à faire la publicité devant ce micro. C'est intimidant d'ailleurs.
C'est métro Jussieu, amphithéâtre Astier, et toutes les informations sont en lien évidemment sur la tête au carré pour tout savoir sur la cryptozoologie.
Merci.
Allez, dans un instant, nous accueillons une star de YouTube pour parler de son livre. Il s'appelle David Loapre avec Qui attraper le bison de Higgs.
What's that look upon your face? It seems you've got a lot to say, but no words come. The flow seems to be gone. Let's sing the way through it. How about a new way to pray? Seems to hang on. Let's dance the way through it. How about a new way to pray? How about a new way to pray? How about a new way?
la Belge Mélanie de Biasio avec The Flow.
Salut.
La tech. Le club.
Open bar toute la nuit. Ambiance de folie. Toute sortie définitive.
Sur France Inter.
Se laisse réfléchir.
Tiens, Louis Chevillard, justement, est-ce que toi, oui, qui es de la jeune génération, tu t'intéresses à la science sur YouTube?
Effectivement. J'imagine. Je sais que c'est une très bonne plateforme.
Tu connaissais David Louapra?
Non, absolument pas. Je suis vraiment désolé.
Bon, alors, science étonnante, c'est vraiment un carton hein, pour David. Ça marche très très bien. C'était d'abord un blog, ensuite c'est il y a ça. Eu cette chaîne YouTube, et puis maintenant le livre. Exactement. C'est marrant d'ailleurs, hein, parce que les YouTubeurs passent beaucoup par le livre aussi maintenant. Hein.
Mais en fait, dans mon cas, ça s'est fait dans l'autre sens, parce que j'ai écrit le livre il y a 2 ans, avant de commencer à faire les vidéos.
Oui, c'est ça. Mais il a été publié après, en fait. Qui a attrapé le bison de Higgs et autres questions que vous n'avez jamais osé poser à haute voix? C'est chez Flammarion. Hein. Et c'est votre fille qui vous a donné l'idée de ce titre?
Non, alors en fait, il faut avouer, l'idée du titre vient de Lison Bernet, qui est l'illustratrice du livre, qui travaille notamment, qui fait la BD du LHC, et qui avait pris l'habitude de parler du boson de Higgs en faisant bison de Higgs.
C'est ça. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, justement, en dehors de ces travaux de vulgarisation scientifique?
Alors, mon vrai métier, c'est que je suis chercheur en physique. Je travaille chez Saint-Gobain. Et la vulgarisation, c'est plutôt ma passion nocturne.
C'est ça. Donc, c'est de la recherche appliquée, hein, très concrète.
Voilà, exactement. Ouais.
Ouais. Et au départ, donc, pourquoi vous avez eu envie de vulgariser la science et de faire partager au plus grand nombre vos connaissances,
hein? D'abord parce que j'aime la science et que je me suis dit qu'il y avait une sorte de déficit d'amour du public pour la science, un peu une perte de culture scientifique. Et je me suis dit que j'avais qu'à me prendre par la main et puis essayer d'apporter ma pierre à l'édifice. Et que voilà, j'ai pris toute une liste de sujets scientifiques qui, moi, me passionnent et me font aimer la science. Et je me suis dit, si moi, ça me fait aimer la science, ça devrait aussi faire aimer la science aux autres.
Ouais, vos sujets de prédilection, c'est la physique et les maths d'abord?
Alors, en fait, mon sujet de prédilection, c'est plutôt l'astrophysique, parce que c'est là-dessus que j'ai fait ma thèse, donc c'est plutôt les choses...
Sur quel thème?
Alors moi, j'ai fait ma thèse sur, disons, ce qui s'est passé dans les premiers instants du Big Bang. C'était la physique fondamentale.
Les premières secondes?
Même avant,
wow.
Ouais, c'était sur ce problème qu'on appelle un peu parfois pomposement la théorie du tout, où on essaye d'unifier l'infiniment grand et l'infiniment petit. Voilà, donc j'ai passé 3 ans à travailler là-dessus.
Et donc vous avez commencé quand exactement la vulgarisation?
J'ai commencé il y a 5-6 ans sur le blog. Voilà, à l'époque, il n'y avait pas de vidéo ou très peu, et le format, le format sur Internet, c'était plutôt le blog.
Voilà, donc cette science curieuse, on va en écouter un florilège préparé par Stéphanie Texier. 3 extraits justement de ce que vous proposez face caméra, hein, dans un style très particulier dont on va discuter avec vous dans un instant.
Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une stratégie infaillible pour gagner au poker. Alors quand même, vous excitez pas trop vite, hein, vous allez voir que cette méthode elle est assez difficile à utiliser et espérez pas avec devenir riche en écumant les tables de Las Vegas ou bien les sites de poker en ligne. Mais je vous raconte pas des blagues, vous allez voir qu'il existe réellement une méthode imbattable pour gagner au poker. Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de ces objets étranges et mystérieux qu'on appelle les trous noirs. Alors, je voudrais vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on en trouve, et puis quelle est la bonne attitude à avoir si jamais vous en croisez un. Bonjour à tous, aujourd'hui, à l'occasion des championnats du monde d'athlétisme qui sont terminés il y a quelques jours, je voudrais vous parler du fameux record du monde du saut à la perche. Alors, quand j'étais môme, je comprenais pas pourquoi les perchistes prenaient pas tout simplement des perches plus longues. Je veux dire, s'ils prennent une perche de 8 mètres, ils devraient bien être capables de se débrouiller pour sauter 8 mètres avec. Eh ben non, en fait, pas du tout. Aujourd'hui, on va voir pourquoi au saut à la perche, comme dans d'autres disciplines d'ailleurs, c'est pas du tout la taille de la perche qui compte.
Voilà, science étonnante, quelques exemples parmi tant. Vous étiez dans votre jardin, sur le dernier, on entendait les oiseaux.
Oui, absolument. Enfin, j'étais pas dans le jardin, j'étais sur un terrain de sport, en fait.
C'est ça. Donc, vous bricolez vraiment avec les moyens du bord, hein.
Oui, c'est fait généralement, voilà, chez moi, dans mon salon. Donc, c'est vraiment,
Mais c'est étonnant parce que c'est quand même, dans la forme, c'est très austère. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur YouTube en ce moment beaucoup, hein. C'est le principe d'être face caméra, sans aucun effet particulier derrière, vraiment des décors minimalistes, et puis enchaîner pendant quoi? 15 minutes quasiment, c'est ce que vous faites?
Ça peut faire 15-20 minutes.
Ouais, ce qui est un temps assez long aussi d'ailleurs pour YouTube. C'est un format très très long.
Ouais, et en plus, on a les statistiques de YouTube, on voit combien de temps les gens restent et la majorité des gens restent jusqu'au bout. Donc,
ça, c'est vraiment quelque chose
de moi qui m'a vraiment stupéfait au début.
Ouais. Louis Chevillard, est-ce que tu
veux te demander si tu fais des coupures ou justement tu fais tout du long, 15 minutes?
Non, généralement il y a des coupures, je fais beaucoup d'animations, mais au niveau du plan, c'est vraiment plan fixe face caméra avec des animations entrecoupées.
Combien de personnes voient en moyenne vos vidéos? Parce que vous faites des scores absolument étonnants. non? Vous êtes dans les plus consultés, je crois, en France.
Oui, sur les vidéos scientifiques, on va dire, c'est de l'ordre de 100 000, mais ça peut être un peu plus, un peu moins. Mais
qu'est-ce qui marche le mieux? Alors, quels sont les sujets qui fonctionnent bien?
Ce qui fonctionne bien, c'est la physique fondamentale, c'est l'astrophysique, l'infiniment petit, ce genre de choses. Donc, moi, ça me plaît bien parce que c'est mon domaine de prédilection et c'est clairement ce qui plaît aux gens.
Et je pose toujours la question aux invités, mais comment se fait-il que les gens s'intéressent à des choses aussi compliquées, quand même? C'est quoi? C'est l'aspect mystérieux, justement, de toutes ces disciplines?
Oui, ça nous fait nous pencher sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait là, pourquoi l'univers est si grand, de quoi est faite la réalité, toutes ces questions qui finalement passionnent les gens, qui moi me passionnaient quand j'étais môme, mais qui m'ont poussé à essayer de devenir chercheur dans ce domaine.
Mmh. L'envie de comprendre, je pense, le fait que vous l'expliquiez d'une façon aussi très, très concrète, c'est ça qui intéresse, je pense, non?
David Louapre, donc il y a maintenant ce livre que vous avez là aussi réalisé dans ce même esprit de la vulgarisation avec des questions très éclectiques.
Ouais. Hein, c'est vrai que moi, toute la science me passionne au-delà de ma spécialité qui est la physique et j'avais envie de parler de ce que j'aime en biologie, de ce que j'aime en maths. Je parle un peu de sciences sociales. Donc voilà, je voulais pas me limiter à un sujet, donc j'ai pris des sujets partout dans les sciences pour essayer de faire aimer la science en général.
Donc il y a du texte, mais il y a de l'image aussi. Hein, évidemment, vous avez beaucoup travaillé là-dessus.
Ouais, il y a beaucoup de. Alors moi, j'aime beaucoup faire des schémas. Je pense que c'est un support très puissant. Ouais. Et puis il y a des très chouettes illustrations donc, qui ont été faites par Lison Bernet qui a illustré le livre d'une manière un peu poétique que j'aime bien.
Ouais. 20 questions scientifiques, c'est ça? Comment vous avez choisi ces 20 thèmes alors exactement?
Et ben, je me suis dit qu'il fallait prendre un peu dans tous les domaines, voilà, maths, physique, bio, chimie. Et puis j'ai pris les questions qui moi me paraissaient les plus sidérantes, les plus importantes, les choses qui me faisaient vraiment
dire
la science. Alors évidemment, je parle d'astrophysique, je parle du Big Bang, je parle de l'évolution. Par exemple, je parle de l'ornithorynque dont on parlait tout à l'heure, qui est vraiment un animal absolument spectaculaire. Voilà, je parle de l'évolution de l'homme, je parle de la chimie des médicaments, ce genre de choses.
Qu'est-ce qui est spécial cet animal, Louis Chevillard?
L'ornithorynque.
Ah, oui.
Disons qu'en fait, quand les premiers chercheurs qui l'ont trouvé sur le terrain sont revenus dans le pays et qu'ils ont énoncé un petit peu toutes les caractéristiques de l'animal, on n'y croyait pas, on pensait à une chimère, on pensait à des fabulations. Et c'est uniquement quand on a eu les premiers spécimens qu'on s'est dit, oh, fantastique, ça existe vraiment.
Voilà. Donc il a réponse à tout.
Il a un bec de canard, il a une longue queue, il est même venimeux, il a des éperons aux pattes arrière. Je pense que
Alors il y a une petite fille aussi qui est une des actrices du livre, c'est ça hein?
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, chaque chapitre est introduit par un petit dialogue d'une page entre ma fille et moi. Et en fait, chaque chapitre est finalement une question que ma fille finit par me poser d'une manière toujours un petit peu naïve, parce qu'elle a 9 ans, et donc une des questions, c'est qu'elle ne comprend pas c'est quoi cette histoire de bison qu'on a découvert.
Voilà. Alors justement, expliquer le boson de Higgs de façon vulgarisée, parce que franchement, nous on essayait de le faire souvent à l'antenne, on a fait des émissions spéciales, boson de Higgs, mais à chaque fois on en ressort, on se dit, mais est-ce qu'on a compris véritablement quelque chose? C'est toujours compliqué. Hein.
Ouais, c'est vraiment compliqué.
Et on a beau faire, hein, les mots sont difficiles. Hein.
Ce que j'ai essayé, moi, sur le chapitre sur le boson de Higgs, c'était bon, évidemment d'expliquer un peu ce que c'est, mais d'expliquer comment on avait... Pourquoi on l'avait inventé? Parce que c'est quand même une histoire incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont imaginé il y a 50 ans.
Ouais.
Et puis au début, bon, on s'est dit, OK, une théorie de plus. Puis de plus en plus, les gens se sont mis à y croire. Et il a fallu 50 ans pour effectivement le découvrir.
C'est ça.
Ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi est-ce que ces gens-là, il y a 50 ans, ont eu l'idée d'introduire ce machin.
Ouais. Et bien, n'empêche que ça leur a valu prix Nobel.
Ah bah oui.
Donc, comme quoi ça sert aussi d'avoir des bonnes idées comme ça. Et puis, on n'a pas fini d'en découvrir apparemment des particules avec le LHC.
Ouais, hein. Là, ça bruisse. Hein. Hein, on attend encore les confirmations parce qu'il faut que statistiquement ça soit robuste. Ouais. Hein, donc, officiellement, on ne sait pas, mais il y aurait des bruits de couloir.
Ouais. Quelle est votre dernière vidéo là en ligne?
Alors, la dernière vidéo, elle parlait du jeu de Go et du fait que l'algorithme de Google avait réussi à battre le champion du monde de Go. Et puis, la prochaine qui sort dans quelques heures va parler du prion et des maladies comme la maladie de la vache folle.
Voilà, à l'occasion de l'actualité justement sur cette vache corésienne.
Non, c'était totalement fortuit. J'avais prévu de faire ce sujet-là, tourner avant même que l'actualité rejoigne.
Science étonnante. Et puis donc, dans l'édition maintenant, c'est chez Flammarion, mais qui a attrapé le bison de Higgs. On a une petite minute pour terminer. Laurent Chevalier, il y a une question de Lydie à votre sujet sur le bio. Hein, évidemment, on en parlait tout à l'heure. Le bio, dit-elle, c'est très cher en France et dans notre pays qui se paupérise. Comment ne pas dénoncer le fait que ce sont les exclus qui vont en être les premières victimes?
Alors, je crois qu'il y a tout un tas de circuits qui se mettent en place, des circuits courts, les AMAP. Donc, il est tout à fait possible de se nourrir de façon tout à fait saine, en bio, en trouvant les bons circuits. On en a partout et même des AMAP qui se développent Paris et partout en France.
Allez, le guide antitoxique de la grossesse, c'est chez Marabout. Isabelle Margot, donc Nancy, 1er et 2 avril au centre
Prouvé.
Et puis Louis Chevillard, donc jeudi 18h30, Université Pierre et Marie Curie, pour tout savoir sur la cryptozoologie. Passez à tous un très très bon week-end.